Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Donc bonjour à tous, je suis avec Émilie Vidot. Émilie, tu es journaliste dans plein de grands médias et tu as écrit un bouquin, et c'est pour ça qu'on discute aujourd'hui, qui s'appelle Social Calling, qui est sur des entreprises, ou plutôt des personnes d'ailleurs, qui ont eu à un moment donné un social calling, c'est-à-dire qu'elles se sont dit, mais c'est quoi le sens de ma vie, quel sens je vais envie de donner à ma vie, comment je peux m'impliquer socialement dans l'entreprise, c'est quoi l'univers que j'ai envie de laisser à mes enfants. Enfin, j'imagine que c'est le genre de question que ces personnes-là se sont posées et que les personnes qui nous écoutent se posent pas tous les jours, mais de manière assez régulière. Et c'est aussi, j'imagine, une question que tu t'es posée toi pour faire ce bouquin, non?
Oui, c'est une question que je me suis posée en 2016, où j'ai eu envie, en tout cas, de redonner du sens au journalisme que je pratiquais depuis déjà plus de 10 ans. Et je me suis demandé, en fait, au service de quel type d'information j'avais envie d'être. Et j'ai constaté qu'il y avait un changement d'état d'esprit dans les entreprises, particulièrement aux États-Unis, puisque c'était une tendance qui était déjà avérée.
D'accord.
Et j'ai décidé de regarder ce qui se passait dans l'écosystème français. Et j'ai réalisé qu'en fait, il y avait de plus en plus d'entrepreneurs qui avaient la volonté de faire converger et l'intérêt général et la nécessité finalement de faire du profit, puisque c'est la définition première d'une entreprise, tout en ayant un impact positif sur la société et sur l'environnement.
Alors, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'il y a un modèle d'entreprise, c'est-à-dire qu'en France, on a les associations, mais aux États-Unis, ils ont un modèle spécifique d'association à but lucratif.
Puis ils ont un modèle aussi d'entreprise qu'on appelle les Benefit Corporation ou les Public Benefit Corporation, tout comme l'Allemagne aussi a développé des entreprises fondations dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, puisque le gouvernement français, avec la loi Pacte, qui est donc le plan de transformation de l'entreprise et de l'économie française, porté par Bruno Le Maire, qui a émis en fait l'idée de changer l'objet social de l'entreprise. Notons quand même que cet objet social n'a pas été modifié depuis 1804, donc il va falloir quand même un peu passer à la vitesse supérieure. Et l'objectif, c'est de changer l'ADN de l'entreprise, qui serait un ADN beaucoup plus social, beaucoup plus environnemental, et dans lequel on intégrerait les principes de l'économie sociale et solidaire au bénéfice de l'homme et au bénéfice de son environnement.
Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que si on était en public là et que je demandais aux gens qui sont dans la salle ou aux gens qui nous écoutent, mais qui cherche du sens dans sa vie et chez qui ça fait écho, je pense que globalement tout le monde lèverait la main, ou quasiment tout le monde lèverait la main. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est du bouquin, t'as fait 15 interviews, si je me souviens bien. Enfin, ouais. Non, une centaine d'interviews, mais t'as repris 15 personnes. Qui avaient qui pour toi étaient les plus intéressantes.
Des ambassadeurs, cette quête de sens. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une accélération. C'est-à-dire que la quête de sens, c'est globalement rien de nouveau à l'horizon. Hein. Marx le disait dans certains de ses écrits, où il expliquait que finalement, le seul travail vivant, c'est le travail qui produit du sens. Donc finalement, cette quête de sens, elle date du début de l'idée du travail.
Donc on est tous un peu marxistes.
Je ne sais pas si on est tous un peu marxistes, mais en tout cas, je trouve que c'est une belle définition de ce qu'est le travail. En fait, on remarque quand même qu'il y a de plus en plus de sondages sur cette idée du sens, parce que finalement, c'est aussi un levier pour recruter, motiver les salariés et attirer et conserver les talents dans l'entreprise aujourd'hui. Un Français sur deux aujourd'hui rêve de tout plaquer parce qu'il ne se sent pas à sa place dans son travail, ou parce qu'il n'est pas suffisamment reconnu. Donc c'est quand même des chiffres qui ont été publiés par Ipsos en 2015 qui démontrent qu'aujourd'hui, cette quête de sens, elle est plus prégnante. Alors pourquoi est-ce qu'elle est plus prégnante ? Parce que c'est aussi le fruit de la révolution digitale qui a débuté il y a une trentaine d'années. Qu'est-ce que ça nous a apporté, Internet? Eh bien, ça a décuplé notre accès à la connaissance. Aujourd'hui, quand on met quelque chose dans notre assiette ou quand on se lance sur le marché du travail, on se pose la question de savoir ce qu'on met dans son assiette et on se pose la question des valeurs qui sont portées par l'entreprise. Ça a débloqué, en fait, un certain nombre de questions et donc une prise de conscience beaucoup plus grande, Internet. Mmh. Et aujourd'hui, les consommateurs sont en train de muter en consommateurs et les collaborateurs sont en train de muter en collaborateurs. Gagner de l'argent ne suffit plus. Derrière, on a la volonté d'avoir un impact positif et de se rendre utile parce que le travail devient un des leviers les plus puissants pour changer le monde et avoir un impact positif sur la société.
Mais alors, est-ce que c'est pas un problème de riche, ça, de se dire j'ai envie d'une quête de sens? Est-ce que c'est pas un truc de bobo parisien, si je prends le terme un peu générique? Mais est-ce que quand t'es au SMIC ou quand, je sais pas, il y a quand même plein de gens qui sont pas dans la misère, mais sans aller jusqu'à la misère, même s'il y a effectivement beaucoup de gens qui sont dans la misère, dans cette tranche moyenne basse, on va dire, est-ce que ça les touche aussi? Enfin, dans ce que t'as...
En fait, je pense qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que dans cette quête de sens, il n'y a pas de gentrification, il n'y a pas de genrification. Je ne sais pas si le mot existe, on peut l'inventer pour l'occasion. Il n'y a pas de c'est pas une question de classe sociale, c'est une question de questionnement personnel, le social calling, puisque c'est un déclic pour agir qui arrive à un moment donné où il se passe quelque chose dans la vie d'un individu. Le jour où une femme a un enfant autiste, quel que soit son milieu social, et qu'elle se rend compte qu'elle ne va pas pouvoir scolariser son enfant et que son enfant n'aura pas accès aux compétences académiques, à savoir lire, écrire et compter, qui vont lui permettre d'avancer dans la vie, elle est face à un besoin qui n'est pas comblé et elle va essayer de combler ce besoin grâce à des outils. Et les outils qu'elle va avoir à sa disposition, ce sont des outils qui sont fournis par le digital. Donc ça va être... les plateformes collaboratives, elle va pouvoir aussi peut-être faire une pétition pour mobiliser une communauté, donc elle va utiliser sa micro-influence. Elle va peut-être aussi créer des applications éducatives pour permettre à son enfant d'avoir accès à ses savoirs académiques. Donc c'est ça aussi la force du digital, c'est qu'elle permet aux gens qui sont en quête de sens de développer des jobs qui vont avoir du sens parce qu'ils ont les outils à leur disposition. Aujourd'hui, on est face à une génération qui, quand elle est confrontée à un problème, que ce soit le chômage, l'exclusion, la crise des migrants ou le gaspillage alimentaire, elle va agir. Elle va pas attendre une réponse du gouvernement, elle ne va pas attendre une réponse de papa ou de maman, elle va tout de suite prendre le problème à bas le corps, et ça c'est grâce au digital. Et ça, je crois que les responsables gouvernementaux l'ont compris aussi, raison pour laquelle ils veulent changer l'objet social de l'entreprise, et ils l'ont aussi compris parce que aujourd'hui, la puissance publique ne peut plus seule répondre à toutes ces problématiques de raréfaction des ressources et de dislocation du monde auquel on est confronté. Donc le business devient un des leviers les plus puissants pour changer le monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle Macron a organisé en fin d'année dernière, le Climate Summit. Et en marge de cela, Nicolas Hulot s'est adressé au grand patron, ce qui a suscité d'ailleurs une levée de bouclier en disant qu'ils allaient changer l'objet social de l'entreprise de façon à ce qu'elle ait un impact positif, qu'elle ne soit plus uniquement au service des actionnaires, mais qu'elle soit au service de l'homme et de son environnement. Parce que les grands enjeux actuel de notre monde, c'est ça. À chaque génération, finalement, sa bataille.
Et d'ailleurs, ce que tu disais, c'est pas genré, c'est pas gentrifié. Par contre, j'ai l'impression c'est vraiment générationnel. C'est-à-dire que moi, dans ce que je lis, dans ce que je vois et la manière dont j'envisage le monde, j'ai la sensation que autant les générations Y, mais même pas les générations Y, les générations ce qu'on appelle les millennials. Enfin, disons que ceux qui sont entre 28 et 35, ils n'étaient pas si impliqués que ça, finalement. Et tous ceux qui sont en dessous, finalement, en dessous de 28, donc Gen Z, enfin, Génération Z, fin de Millennials, j'ai l'impression qu'ils sont hyper, hyper impliqués, beaucoup plus que la génération intermédiaire, finalement. Enfin, intermédiaire pour moi.
Mais... Oui, c'est très générationnel. Et encore une fois, c'est générationnel parce que cette Gen Z, comme tu dis, elle a été biberonnée à Internet. Donc, ouais. Elle a elle-même éveillé sa conscience. Mmh. Elle est née avec une palette d'outils à sa disposition. Quand elle veut agir et réagir, elle va faire du crowdfunding pour lever de la love money, elle va utiliser sa micro-influence, elle va monter une plateforme collaborative ou des applications mobiles. Donc, tous ces ingrédients, en fait, font que c'est une génération qui est beaucoup plus militante et qui est beaucoup plus engagée. Et comme je te le disais tout à l'heure, à chaque génération, son grand défi. La génération de nos grands-parents ont eu pour mission de consolider la paix après deux guerres mondiales successives. La génération de nos parents, finalement, a eu pour ambition de construire l'Europe et de libérer les mœurs. Eh bien, la nouvelle génération... Elle a cette mission de faire face à ce changement climatique, de faire face à cette raréfaction des ressources, et elle le fait grâce au digital parce que les problèmes à adresser sont mondiaux. Oui. Donc pour avoir un impact massifié, elle est obligée d'en passer par la technologie.
Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que si pour la génération c'est indispensable, ça veut dire que pour les entreprises, ça l'est nécessairement. En termes de culture, dans la manière dont ils vont travailler, il y a forcément un changement culturel qui doit s'opérer. On a vu dernièrement Danone qui avait fait une annonce sur sa valorisation, je crois que c'est la valorisation de mémoire, qu'elle essaie en fonction du social good, donc des impacts qu'ils avaient de manière positive. Est-ce que tu as vu, toi, des entreprises, peut-être des patrons qui sont venus te voir, ou des entreprises qui commencent à avoir des impacts positifs? Moi, je connais quelques exemples d'entreprises qui reversent beaucoup. Et puis, il y a des grands patrons qui reversent rien non plus. Et ça peut être assez choquant. Tu as des do's and don'ts ou des entreprises qui ont fait des choses bien. Parce que je pense qu'il y a aussi ce truc, qu'on soit un individu, qu'on soit une entreprise, de je ne sais pas par lequel bout le prendre. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui ont pris un bout à un moment donné et qui ont fait quelque chose.
Alors en fait, il y a plusieurs défis pour les entreprises. D'abord, clairement, si elles veulent assurer leur pérennité, aujourd'hui, elles vont devoir répondre à un triple projet économique, social et sociétal. Donc il y a plusieurs défis pour les entreprises. Il y a cette pression, en fait, finalement, de la part de la société, qui est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont mauvaise réputation. Depuis la crise de 2008, on les regarde avec beaucoup de méfiance et aujourd'hui, finalement, elles doivent redorer leur blason, mais pas en faisant du conscience washing, en étant vraiment dans l'action. Oui. Le moyen d'être dans l'action pour elles, c'est finalement de s'engager, non pas en ayant une obligation de résultat, mais déjà en ayant une obligation de moyens, et d'inscrire dans leur statut cette volonté qu'elles auront d'avoir un impact positif. Donc Danone l'a déjà fait avec sa filiale américaine Danone Waves. Parmi les entreprises pionnières qui ont inscrit dans leur statut d'être au bénéfice de l'homme et de son environnement, il y a la Camif, il y a Nutricet. Donc il y a effectivement une mise en marche de certains leaders et de certaines entreprises qui vont s'engager à inscrire les principes de l'économie sociale et solidaire, qui est une économie pionnière, qui n'est pas uniquement au service des actionnaires, mais qui est aussi au service de l'homme et de son environnement, et qui a finalement vocation à être plus dans la collaboration que dans la compétition.
Et ça, c'est vrai que c'est un mouvement que je trouve intéressant. Qui est global et qui va permettre de recruter, je pense, les meilleurs éléments quelque part.
Oui, parce qu'évidemment, on va pas se mentir, hein, derrière il y a des objectifs aussi de recrutement. Les étudiants, et en tout cas les jeunes diplômés des grandes écoles, aujourd'hui, un sur deux veut avoir un job qui a du sens et est prêt même à sacrifier zéro sur son salaire pour pouvoir retrouver du sens dans son job. Et on le voit, il y a quelques années, une chaire entrepreneuriat social à HEC, il y a 10 ans, aurait été inenvisageable. Ouais. Aujourd'hui, c'est une des chaires les plus populaires dans ces grandes écoles-là. Donc, il y a effectivement un changement d'état d'esprit chez ces jeunes diplômés de grandes écoles. Et on le voit dans les études qui sortent, qui ont non plus envie d'aller travailler dans la finance et non plus envie d'aller travailler dans les assurances, ouais. si ça n'a pas de sens.
Et d'ailleurs, on voit des projets comme Veja qui naissent. Alors, Veja, ça fait plus de 10 ans que ça existe, mais donc c'est des baskets, juste pour ceux qui ne connaissent pas, malgré tout. Mais qui étaient des gens qui étaient justement dans la finance et qui ont lancé Veja en ayant vu des usines. Parce qu'il y a aussi... j'entendais une journaliste justement sur un podcast qui expliquait ça de manière assez vraie. Il y a aussi une sorte d'aveuglement volontaire de la consommation en Occident, c'est-à-dire qu'on pollue énormément en Chine, on pollue beaucoup en Afrique, et on ferme les yeux sur la manière dont les produits, par exemple le fast fashion, ou la manière dont les produits, enfin ce qu'on consomme au jour le jour est produit.
Ouais, mais on va bientôt plus pouvoir fermer les yeux sur ça, parce que aujourd'hui,
c'est pas bien, la Chine elle pollue, mais en fait c'est nous qui polluons la Chine.
Les entreprises, elles ne peuvent plus se permettre le scandale des modeurs truqués ou la fast fashion comme tu l'as décrit, c'est plus possible, parce que aujourd'hui cette génération, elle va pousser au changement.
Ouais.
Donc elle va imposer des nouveaux standards de sens, si je puis dire, aux entreprises.
Et en même temps, c'est la génération Instagram qui a envie de se changer pour prendre des photos. C'est ça qu'il y a. En fait, il y a des vraies tensions qui sont hyper intéressantes, je trouve. Hein, mais c'est vrai qu'on voit des mouvements, et justement, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des startups qui se sont montées, qui sont souvent montées par des jeunes finalement, et qui n'avaient pas forcément un sou avant de les monter. Je pense aux deux femmes que tu as interviewées qui ont créé une chaîne, enfin on peut appeler ça comme ça, une chaîne de formation. Elles sont parties, elles n'avaient pas de budget, elles n'avaient pas de réseau, elles n'avaient rien, et elles l'ont fait, quoi. Donc,
En fait, il y a trois typologies de personnes que j'ai remarquées. Déjà, la social tech, ou ce qu'on appelle aussi la tech for good ou la tech with purpose, est souvent préemptée par les femmes.
Ah oui.
C'est-à-dire que il y a à peu près sur les 66% d'entrepreneurs sociaux aujourd'hui dénombrés en France, il y a 32% des entreprises qui sont créées par des femmes. Wow. Donc c'est beaucoup plus statistiquement que le nombre d'entreprises qui sont créées aujourd'hui dans la tech par des femmes, qui se situe aux alentours de 10-12%. Pourquoi le secteur est préempté par des femmes? Parce qu'aujourd'hui, souvent les femmes, elles ont un frein quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat. Elles n'osent pas se lancer. Mmh. Mais la différence quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat social ou dans la social tech, c'est que c'est tellement ancré dans leur ADN et elles ont tellement envie d'être utiles que finalement elles vont dépasser leur propre peur pour pouvoir se lancer.
C'est le fameux complexe de... Comment on appelle ça ? C'est le fameux complexe de l'imposteur.
Exactement.
Que les femmes ont beaucoup plus dans la vie professionnelle au jour le jour que les hommes, mais pas dans le social, c'est ça qui est intéressant.
Et dans le social, en fait, elles ont un driver qui est tellement fort, elles ont un moteur qui est tellement fort qu'elles vont oser dépasser des montagnes. Et c'est effectivement le cas de ces trois jeunes femmes qui ont lancé Kokoroé, qui est une des headtech les plus prometteuses, créée en 2012, dont Niel et consorts sont actionnaires. C'est une start-up qui a pour ambition, en fait, de lutter contre le décrochage numérique et qui propose à tout à chacun de se former gratuitement en consommant des formations comme on consommerait une série sur Netflix via une plateforme pour se former à l'intelligence artificielle, à la blockchain, aux crypto-monnaies. Ou à l'illustration, ou à la photographie de mode. Ces nanas-là, elles ont eu une crise à la trentaine. Donc, elles sont femmes et elles vivent une crise à la trentaine parce que finalement, elles ont dû cocher un peu toutes les cases de la pression sociale et familiale. Et elles arrivent au bout du chemin et elles se disent, mais finalement, au bout de ce chemin, qu'est-ce qui m'attend? En quoi est-ce que je suis utile? Est-ce que mon travail a un impact positif? Elles se rendent compte que non. Et donc, elles créent des entreprises pour faire bouger les lignes. Et ensuite, après, il y a une autre typologie. Ce sont plutôt des hommes qui ont réussi, qui ont entre 40 et 50 ans, qui ont réussi à construire des entreprises dans le secteur du digital, qui ont reçu un gros chèque et qui se retrouvent souvent à la table du petit déjeuner avec leur fils ou avec leur fille, qui leur dit « Mais papa, en fait, c'est super, t'as gagné plein d'argent, mais qu'est-ce que finalement tu vas laisser à notre monde ?»
C'est ça.
Et ça, je l'ai entendu à nombreuses reprises, cette anecdote. Et donc, eux décident avec l'argent qu'ils ont gagné, de se mettre au service de la résolution d'un problème sociétal. Et c'est par exemple le cas d'un Pascal Lorne qui a fondé GoJob, qui essaye de truster en fait le marché de l'intérim en proposant eh bien d'avoir un job en un clic et en luttant contre la discrimination qui peut avoir lieu quand on recrute en face à face. Et puis un Ludovic Lemoine qui est aujourd'hui fondateur de Sigfox, le leader des objets connectés, qui dès le début du lancement de son entreprise crée tout de suite une fondation pour permettre de lutter contre la disparition des rhinocéros ou de lutter contre le viol des femmes en Inde, tout ça grâce aux objets connectés.
Ouais, ça c'est hyper intéressant aussi, je trouve, ce qu'ils font chez Sigfox. Et du coup, comment les entreprises peuvent s'adapter à ce nouveau paradigme?
Oui, alors ce changement en fait du capitalisme, qui est un capitalisme beaucoup plus moderne, beaucoup plus inclusif et avec du sens. Les entreprises, elles ont plusieurs pistes qui commencent aujourd'hui à se développer dans des grands groupes. Je pense à Crédit Agricole, je pense dans pas mal de banques et chez Air France. L'objectif, c'est de redonner du sens à leurs salariés. Donc ça, c'est un gros challenge. On voit fleurir des programmes d'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat existe depuis le début du XXe siècle et donc ça consiste finalement à permettre aux salariés de créer des projets à côté de ce qu'ils font dans leur travail quotidien. Ces projets développés permettent à l'entreprise de redonner du sens. Je pense aussi à l'utilisation des fondations qui est beaucoup plus importante aujourd'hui en France, un peu sur un modèle américain qui consiste à embarquer les salariés dans la construction de projets avec des associations via la fondation. Donc ça permet aux salariés d'avoir du temps qui est normalement du temps de travail mais qui va être exploité pour le bien de la société. Et puis il y a aussi des salariés qui proposent de co-construire des actions avec des associations qu'ils supportent eux dans leur sphère personnelle. Donc aujourd'hui on voit fleurir tout un tas d'initiatives et je pense que l'entreprise est en train de muter et elle mute grâce à des prises de position individuelles au sein de l'entreprise parce qu'on sait finalement que tous les grands changements sociaux issus souvent d'initiatives individuelles courageuses qui vont faire bouger les lignes de l'entreprise.
C'est une question de croyance, oui, bien sûr. Et alors du coup, ce podcast, il s'appelle VLAN. Donc à qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte, on va dire. À qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte?
Je voudrais claquer la porte tous ces grands patrons qui sont mus par le seul intérêt du profit et qui n'ont que pour volonté de servir... l'intérêt des actionnaires, parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence à jouer la carte du collectif pour essayer de résoudre des gros problèmes sociétaux.
C'est étonnant d'ailleurs.
Où chacun doit mettre la main à la pâte, quoi. Ouais. Et j'aimerais claquer la porte à ces grands patrons français qui devraient avoir le courage de s'engager. Je pense par exemple à Bernard Arnault, qui aujourd'hui a été classé récemment dans les 5 premières fortunes de France et qui a été classé donc dans les 5 premières fortunes du monde et qui pour l'instant n'a eu que pour ambition en France de construire une fondation dédiée à l'art et qui plus est payante. Donc je trouve ça assez fâcheux.
Après moi je connais pas tous ces investissements mais c'est vrai que je crois pas, j'ai pas connaissance en tout cas d'investissement personnel avec son argent personnel, parce qu'encore il y a LVMH et puis il y a son argent à lui, d'investissement personnel qui soit dans ce sens-là.
Enfin, et je crois qu'il y a eu cette tribune aussi il y a quelques semaines qui a été publiée par AXA qui expliquait qu'aujourd'hui on avait besoin d'avoir des grands patrons qui s'engagent à avoir un impact positif et à distribuer quand même un peu plus d'argent. Et je pense que dans les années à venir, la philanthropie à la française, on a besoin de construire des rôles modèles pour aussi bien démontrer que finalement, quand on a gagné beaucoup d'argent, il y a un moment donné, c'est Xavier Niel qui dit ça, il y a un moment donné en fait, où ça appartient au collectif. Ouais. Et je pense que Niel l'a très bien démontré en construisant Station F, en construisant 42, en construisant des logements pour ces jeunes qui sont plutôt éloignés de l'emploi et qui doivent bénéficier de la sécurité sociale.
De toute façon, normalement, on se demande, mais qu'est-ce que tu en fais de cet argent?
Mais enfin, exactement. Et lui le dit, à un moment donné, quand on a gagné beaucoup d'argent, ça appartient au bien commun.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Émilie.
Merci, Grégory.
Merci d'avoir écouté Volant, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.